Bonsoir, c'est une question récurrente. Comment désenclaver certaines régions? Comment moderniser le réseau de transport en France, hein. Parfois, on frôle le déclin à l'asphyxie. Oui, on peut aussi se demander, est-ce qu'on peut tout faire? Est-ce qu'on peut construire partout des lignes SNCF, des autoroutes? Regardez comment certains élus veulent toujours le plus beau pour leur ville, pour leur région. Alors, quelle priorité exactement? Oui, le Conseil d'orientation des infrastructures, hein, remettait aujourd'hui au gouvernement, à Elisabeth Borne, sa copie, justement. Oui, avec une petite question, quand même. Oui, toute petite question. Comment aller financer ces infrastructures? Parce que ça coûte cher. Alors justement, rail, route, peut-on tout se payer? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Ouais, sujet qui nous concerne tous, on vous en parle ce soir dans les décodeurs de l'écho, avec celui qui a rédigé le rapport, hein, celui qui préside l'agence de financement des infrastructures de transport de France, c'est Philippe Duron qui est avec nous, hein, ancien député, ancien maire de Caen également. Florence Berthelot nous accompagne, la déléguée générale de la FNTR, qui représente les entreprises du transport routier de toute taille, hein, les grands groupes, les PME, les TPE, presque 40 000 entreprises, 44 milliards de chiffre d'affaires. Philippe Mangeard, à la tête de son agence de notation spécialisée dans les mobilités, dans le transport, c'est TK Blue, et puis Emmanuel Le Chypre, éditorialiste économique à BFM Business. Voilà, ça va débattre, j'en suis sûr, dans un instant. Philippe Duron, oui, c'est vrai, est-ce qu'il y avait un dilemme, quelque part, lorsque vous rédigez ce rapport? Est-ce qu'il faut accélérer, quelque part, la construction des infrastructures? Est-ce qu'il faut, au contraire, lever le pied? Est-ce qu'il faut simplement rénover, faire des pauses, faire step by step? Dès le départ, vous êtes clair, et c'est ce que vous écrivez, tout n'est pas possible. Il faut choisir, il faut définir des priorités parmi les nombreux projets espérés par les territoires. Compliqué, tout ça?
C'est compliqué, mais souvenez-vous, il y a une petite histoire récente. Il y a 10 ans, on avait un grand programme d'infrastructures. Ça s'appelait le schéma national des infrastructures terrestres. C'était 175 grands projets. C'était, et programmes. C'était 240 milliards d'euros. Et 240 milliards d'euros, on s'est très vite aperçu que c'était infinançable.
Voilà.
Donc il a fallu, hein, prioriser. On avait fait un premier travail que j'avais présidé il y a 5 ans, qui s'appelait Mobilité 21, pour hiérarchiser les infrastructures. Ça a été suivi des faits, mais les transports, la mobilité, ça change. Ça change. Florence le sait bien, vous le savez tout, Philippe aussi. Ça change parce que aujourd'hui, les habitudes de nos concitoyens évoluent, parce que les technologies, et notamment les technologies de rupture, s'invitent dans le débat de la mobilité, et il est important de pouvoir prendre en cause tout cela, en compte tout cela.
Et ça sert à rien de lancer, d'avoir l'idée de lancer 175 projets,
ça
même
sert à rien,
si on avait l'argent.
Ça sert à rien de les promettre si on n'est pas capable de tenir ses engagements. Donc aujourd'hui, le président de la République, le 1er juillet, lorsqu'il a inauguré les deux LGV, Tours-Bordeaux, et le Mans-Rennes, a dit, bah, écoutez, c'est probablement la dernière LGV que j'inaugure, et parce que la priorité demain,
les
ça va être
les transports du quotidien.
Les transports du quotidien. Mais voilà. Souvenons-nous ce qui s'est passé à la gare Montparnasse, à deux reprises cet été. Ouais. Souvenons-nous ce qui s'est passé à la gare Saint-Lazare. Ouais. Et cela, ça peut se reproduire dans n'importe quelle grande gare, dans n'importe quel nœud ferroviaire. Il est bon de sécuriser. Regardons les problèmes qu'ont les gens qui prennent le RER tous les matins pour venir travailler à Paris. Regardons les problèmes qu'ont aussi les gens du monde rural, hein, pour avoir un emploi. On a des statistiques sur les refus d'emploi, notamment dans les zones rurales, parce que des jeunes, des moins jeunes, hein, n'ont pas de moyens de déplacement sûrs pour aller au travail. Le quotidien, c'est nécessaire. Et deuxième chose, c'est la qualité des réseaux. On a, pendant 30 ans, privilégier la grande vitesse sur la route avec le réseau autoroutier qui est remarquable, et également sur la voie ferrée avec le TGV qui est aussi une réussite française. Mais on a en contrepartie abandonner les réseaux qui se dégradaient. Vous avez dit la route, vous avez dit le réseau ferroviaire, vous oubliez la voie d'eau.
Bah oui,
la voie d'eau, c'est pire encore. Hein. Il est essentiel de préserver ces rails.
C'est intégré dans votre rapport, on y reviendra. Juste, Emmanuel Le Chypre, c'est vrai qu'on y avait consacré à l'occasion de ces incidents Gare Montparnasse, une émission complète des décodeurs de l'écho sur cette espèce de grande faillite, quelque part, de ce déclin. C'est quoi les besoins en France, les vrais besoins, je parle, hein, c'est pas juste comme ça un petit caprice de faire une bretelle d'autoroute ou quoi. C'est quoi les maux de nos réseaux de transport? La saturation, la vétusté, c'est vraiment catastrophique ce qui se passe en France ou pas?
Non, mais c'est plus que catastrophique, c'est-à-dire que ce qu'il y a dans ce rapport n'est que le quart du périmètre qu'il faudrait couvrir pour répondre à la problématique des infrastructures. Parce que vous avez effectivement couvert le champ de la mobilité, mais qu'est-ce qu'on doit dire sur les réseaux d'eau qui ont plus de 70 ans et qui sont et dans lesquels vous avez 25% de pertes en ligne? Qu'est-ce qu'on doit dire sur les réseaux électriques? Et là, on est confronté à un problème colossal, c'est que pendant 40 ans à peu près, on n'a rien fait. Et on se rend compte aujourd'hui qu'effectivement, le coût de ne pas avoir entretenu et de ne pas avoir investi régulièrement est absolument colossal. Et quand je vous dis qu'il y a urgence, c'est que quand vous regardez aujourd'hui ce qui était considéré comme une des grandes qualités de la France, un des grands atouts français, c'est-à-dire ses infrastructures, et ben quand vous regardez dans les classements internationaux, ça dégringole. Ça dégringole. Prenez le classement du World Economic Forum de Davos, par exemple, sur lequel vous avez toute une rubrique infrastructure. En 2010, on était quatrième, on est aujourd'hui huitième. Si vous prenez la route, on était deuxième en 2010, on est sixième aujourd'hui. Vous avez plus de la moitié des Français qui disent constater une dégradation de l'état des routes. Et je ne vous cite pas le chiffre dans lequel la qualité de la route intervient dans les causes d'accidents. Sur les ports, on est passé de la 12e à la 23e place. On a perdu 15% de trafic quand le trafic européen ne baissait que de 1,5%. Les aéroports, on n'a même pas un aéroport français dans les 30 premiers mondiaux en termes de qualité d'infrastructure. Le rail, vous connaissez tous ce qui s'est passé. Je vous rappelle quand on change 4000 aiguillages en moyenne par an en Allemagne, on n'en change que 2000 en France. Et quand vous voyez effectivement tout ce qu'il y a sur le réseau ferroviaire, je vous rappelle que sur Paris-Chartres cet été on roulait à 70 km/h parce qu'on avait peur
que ça déraille.
On avait peur des déraillements. Ce qu'il faut faire sur le transport fluvial, où là il y a des opportunités. Là encore, voyez donc si vous regardez tous les besoins. Vous êtes effaré quand même par l'ampleur des défis qu'il faut relever. Et donc déjà qu'on se dit qu'on va avoir du mal à financer tout ça. Et quand je vous dis ça, je vous parle pas de la promesse d'équiper en haut débit tout le pays. Oh bah. Vous voyez,
la
quantité de défis qui se posent en matière d'infrastructure, de chantier. Et quand on voit que même sur les questions essentielles de mobilité, on se demande comment on va trouver l'argent, je pense qu'il va falloir innover. Beaucoup plus, aller beaucoup plus loin en termes d'innovation financière.
Du financement, bien sûr. Oui, Florence Berthelot, celle qui, quelque part, utilise ce réseau routier avec ses 300 000 véhicules, c'est aussi catastrophique que ça, comme nous le disait Emmanuel Le Chypre.
Je pense qu'il y a des différences de situation selon les régions, selon les réseaux. Comme le disait Philippe Duron, le réseau autoroutier, qui est quand même très emprunté par les camions, est en excellent état. Vous me direz, on paye aussi pour ça. Et on y reviendra sans doute tout à l'heure. Ensuite, sur le réseau non concédé, qui est aussi largement emprunté, là, il y a, selon les régions, des différences de situation. Il y a des routes qui sont dangereuses, donc on est quand même, nous, avec la préoccupation de la sécurité routière en premier. C'est pour ça que on a été aussi auditionné par Philippe Duron, non seulement sur les aspects de financement, mais aussi sur les besoins qui sont exprimés par nos entreprises. Et clairement, ce que l'on peut dire, c'est que nous serions peut-être plus modérés. Alors, j'entends effectivement globalement ce déficit d'investissement, de régénération des routes. Mais sur les routes que nous empruntons, je dirais, la situation est erratique selon les régions. Il y a des routes que nous n'empruntons pas par nature, parce qu'elles ne sont pas adaptées
à vos gros camions, par exemple.
Poids lourds. Ouais. Où certainement la situation se dégrade encore plus.
Alors, à qui la faute, Philippe Mangeard, ce tableau apocalyptique? Parce que là, comme le disait Philippe Duron, c'est l'heure des choix, voilà. Il faut trancher.
Il y a un brin d'optimisme. Il y a un optimisme si on a un peu l'œil innovateur. Parce que ce qui est aujourd'hui le constat, dans l'innovation structurelle, il y a le mot infrastructurant qui est un peu oublié. J'entends par là qu'on parle de réseau et on parle de mode de transport. Si on découple le mode de transport et le réseau pour changer le moyen sur la même infrastructure, je pense au ferroviaire, je pense au fluvial, vous avez des gains de productivité colossaux, ne serait-ce que sur l'existant, qui vont correspondre à l'absorption des nouveaux besoins de mobilité, pas du dernier kilomètre ni du citoyen, mais déjà là, vous avez des ressources. Deuxièmement, ce qui manque dans la réflexion du jour, c'est des financements innovants. Moi, j'écoute les vœux de Nicolas Hulot au début d'année. Il nous parle, pour le printemps, d'une feuille de route accompagnée d'un mot magique, la fiscalité écologique. Je lis l'avant-propos de Philippe Duron dans son rapport, et il dit « Moi, aujourd'hui, j'ai une obligation, il faut absolument que la France contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. » Que ça soit le discours de M. Hulot, l'avant-propos de Philippe Duron, je m'y retrouve pas. On parle une fois de plus de charger les malheureux routiers, poum, de charger les utilisateurs, poum, mais d'une façon innovante, rien. Alors qu'il y a des propositions, et j'y reviendrai plus tard.
Oui, alors justement, sur quoi vous avez travaillé, Philippe Duron? C'était quoi la problématique pour faire face à l'état des lieux que nous donnait Emmanuel Le Chip sur le réseau ferroviaire, le réseau routier et le réseau fluvial? Rénover l'existant, améliorer les déplacements quotidiens, ou alors se lancer vraiment dans des nouveaux projets, des projets de taille qui se comptent en milliards?
Alors, d'abord, les choses sont plus complexes. Tout d'abord, moi je pense qu'il faut quand même nuancer un peu ce qu'a dit Emmanuel Le Chip. Il y a effectivement une dégradation des réseaux, mais j'allais dire, il y a aussi quand même des réseaux qui se portent bien. Simplement, aujourd'hui, il faut arrêter cette dégradation, c'est important. C'est commencé. On investit deux fois plus qu'il y a cinq ans dans la régénération du ferroviaire. Il y a 1500 chantiers par an en matière de régénération du ferroviaire. Mais on peut faire beaucoup mieux.
Et puis, il y en a aussi, Philippe Duron, qui sont arrêtés, qui sont mis en jachère, des projets qui ont été lancés il y a quelques années, parce qu'il y a des contestations locales. Parce
ça, c'est vrai, mais ça, c'est autre chose. Ah, c'est la question de l'acceptabilité sociale et politique des projets.
Ça va devenir de plus en plus compliqué.
Je pense.
Notre-Dame-des-Landes.
Oui, il y a Notre-Dame-des-Landes, mais Notre-Dame-des-Landes était un vieux projet. Un projet qui a été conçu avant que l'on parle de problématiques environnementales. Un projet qui était peut-être un peu mal dimensionné par rapport aux choses.
C'est aussi le cas du Lyon-Turin, voilà, ou des choses comme ça.
On va pas refaire Notre-Dame-des-Landes, mais reconnaissez que ça va être de plus en plus dur de construire une route, une voie de chemin de fer, une autre route, parce que les recours sont nombreux, et peut-être que ça va donner des idées à certains
des
écolos
solutions. Regardez, de bloquer ça. Quoi. Nous sommes allés voir l'autoroute A31 qui rejoint la Lorraine au Luxembourg. Autoroute sursaturée.
Bien sûr.
En mauvais état. Oui, il est nécessaire de faire quelque chose très rapidement. Mais là, on avait pensé un temps à faire une deuxième autoroute. Ouais. En fait, on va reconditionner l'autoroute, on va l'élargir, l'améliorer sur place. Et là, il y a un impact environnemental plus faible, mais on va avoir une satisfaction des usagers aussi assez rapidement. Et ça, je crois que c'est tout à fait intéressant.
Alors, pour revenir à ma question, justement, c'est quoi? On fait quoi? On améliore l'existant ou on se lance dans des chantiers?
Non, on améliore l'existant et il y a des chantiers qu'il faut soit continuer, soit achever. Je vais prendre deux exemples pour vous le montrer. Tout d'abord, ce qu'on appelle LNCPA, liaison nouvelle comme Provence-Côte d'Azur. Oui. Provençaux ont rêvé de la LGV, les Niçois aussi. Et puis on s'est aperçu que c'était compliqué à faire passer et que c'était peut-être pas la bonne réponse aux problèmes réels des gens. Les problèmes réels des gens sur la Côte d'Azur, c'est d'aller au travail, je peux vous donner une anecdote, il y a 5 ans, je rencontre un ministre plénipotentiaire de Monte-Carlo, je me dis, il va me demander une LGV. Et il me dit, non monsieur, vous vous trompez complètement. Le problème de Monte-Carlo, ça n'est pas le transport à grande vitesse, c'est d'amener tous les jours les 25 000 salariés qui font vivre la principauté. Donc on a besoin de TER plus capacitaires et de TER qui soient à l'heure.
Et des gares aussi qui accessoirement peuvent accueillir les voyageurs, qui sont pas toujours en bon état.
On a reconverti complètement l'idée de la LGV pour faire une liaison nouvelle, avec une voie nouvelle qui va apporter de la robustesse à la ligne, de la capacité à la ligne. Et on commence là, on dit il faut pas attendre, il faut commencer maintenant parce qu'il y a un vrai besoin. Et on commence par les deux extrémités, c'est-à-dire par les gares, parce que les gares, c'est les points névralgiques d'une liaison ferroviaire. Si vous attendez 10 minutes pour entrer dans une gare, à l'aller ou au départ ou à l'arrivée, vous perdez une grande partie de vos avantages. Et donc, on va commencer par la gare Saint-Charles, par la gare de Nice, et aussi un peu pour le nœud ferroviaire de Toulon. Ouais. Ça, c'est des choses importantes qui ne doivent pas tarder. On a beaucoup parlé de Bordeaux-Toulouse. Fallait-il arrêter Bordeaux-Toulouse? Fallait-il abandonner ce projet? Nous, il ne nous semble pas. C'est légitime qu'une de la quatrième agglomération française ait une relation digne de ce nom en matière ferroviaire. Et monsieur de Chypre.
Mais tout le monde dit que ça va coûter une fortune et que ça gagnera jamais d'argent.
Non, sauf que vous avez
demandé. Je trouve quand même dans ce débat que les juste pour.
Oui, allez-y.
Non, mais juste pour dire qu'on a quand même deux contraintes qui compliquent le sujet. C'est quand même les délires des élus locaux.
Ah bah ça.
Parce qu'alors moi, enfin je vous dis pas tout ce que j'ai entendu ces derniers temps.
Qu'on en
alors
parle.
Vous avez dans un village des gens qui se disent ah, maintenant il y a de la sécheresse. Alors il faudrait qu'on creuse un grand tunnel du village voisin pour amener l'eau pour éviter la sécheresse. Donc tout le monde veut des projets pharaoniques et comme les choix des grands projets qui ont été faits depuis 20 ans l'ont quand même été faits beaucoup plus sur des bases politiques que sur des bases économiques. C'est-à-dire qu'on a abandonné l'idée du calcul. Je ne dis pas qu'on n'a pas fait ce qu'on appelle du calcul économique.
On ne sait plus cibler les vrais besoins, c'est ça, Emmanuel.
Du projet. Exactement. Vous voyez bien que dans un pays où vous avez un truc qui est censé s'appeler le train à grande vitesse et que ce train à grande vitesse s'arrête dans 200
partout.
Gares, vous vous dites, bon ben voilà, on n'a pas non plus eu de réflexion vraiment économique sur le sujet. Sur le Lyon-Turin, moi, ce que je comprends, c'est que les prévisions de trafic qui ont été faites à l'époque où on a lancé le projet sont très supérieures à ce qu'est la réalité du trafic aujourd'hui et que ça pose un problème et que manifestement, alors je sais pas si on va le faire quand même ou pas, et la LGV Bordeaux-Toulouse, alors vous avez beau avoir tous les élus entre Bordeaux et Toulouse qui vous dire que ça va être un essor absolument fabuleux pour la région, moi, tous les calculs que j'ai vus, c'est quand même que ça va coûter de l'argent et pas en rapporter beaucoup.
Juste un point sur Bordeaux-Toulouse. Ouais, moi, je partageais un peu votre avis et j'avais proposé, et je l'ai fait dans un papier d'ailleurs qui est paru dans une revue d'économie politique, que j'avais proposé qu'on ait ici un train à moins de 250 à l'heure entre Bordeaux et Narbonne. Mais j'observe que depuis qu'on a ouvert la LGV, Tour Bordeaux. Eh bien, la diagonale sud, la transversale sud entre Bordeaux et Narbonne a vu son trafic augmenter de 20%. C'est-à-dire qu'il y a un appel d'air important et un transfert modal de l'aérien vers le ferroviaire. Donc, je crois que les prévisions et notamment les inquiétudes de la SNCF étaient probablement excessives.
Pour autant, je ne suis pas sûr que ce soit un TGV qui réponde aux besoins.
On verra tout à l'heure ce que c'est qu'une liaison prioritaire ou un chantier qui ne l'est pas. Juste sur le délire des élus, parce que là, franchement, ce que dit Emmanuel Le Chip, moi, ça m'interpelle quelque part. Et c'est vrai qu'on voit, donc, à force de demander n'importe quoi, on ne sait plus forcément cibler les vrais besoins. Est-ce qu'il n'y a pas en France, je pose la question à Philippe Mangeard, Florence Berthelot, puis vous me répondez, puisque vous avez été aussi
maire de Caen, président de région
et député également du Calvados. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas en France, sous la pression de certains élus locaux qui veulent exister, qui veulent laisser leur trace quelque part dans l'histoire, l'envie de commander des lignes, l'envie de commander des routes, des autoroutes, des échangeurs, etc. Je cite Elisabeth Borne, quand même, qui a reçu le rapport aujourd'hui, qui souligne la nécessité de sortir de cette véritable dérive qui a consisté à multiplier les promesses non financées, ce dont notre pays a souffert. Voilà ce qu'elle dit, Elisabeth Borne. Philippe Mangeard.
Elle dit clairement que pour chaque projet, il faut un business plan avec des gens autorisés à le rédiger, à le contrôler. Ouais. On a des délires qui sont encore plus graves. Je prendrai une fois de plus en exemple Madame Hidalgo qui veut interdire les camions dans Paris. Pourquoi faire pour multiplier les camionnettes électriques et multiplier par 10 les embouteillages. Ouais. Ça va arranger la vie des citoyens. Donc tout ça. Donc il y a des délires. Aujourd'hui, il faut les... C'est pareil. Regardez le délire du Grand Paris aussi. On en parle depuis 8 jours. On sait plus où on va, il manque 10 milliards, 8 milliards, on revient. Madame Borne, elle intervient justement, elle dit, il y en a marre, on va reprendre la main, on va mettre des experts,
des professionnels
pour contrôler où on va. Donc le business plan, c'est quelque chose qui est un peu anglais, donc on va appeler ça le plan d'affaires en français, mais ça fonctionne très bien.
Les élus sont gourmands, et certains sont irresponsables.
Tout besoin réel trouve son financement.
L'autre sujet, pour faire très court, c'est quand même que systématiquement sur chaque projet, ça met deux fois plus de temps que prévu et ça coûte deux fois plus cher que prévu. Donc il y a un moment où il faut aussi s'interroger sur la façon dont on fait les appels
d'offres. Guillaume Poitrinal, on a fait un livre entier justement sur l'éloge de la lenteur. Oui, Florence Berthelot à la tête de la FNTR.
Il y a l'aspect économique qui est tout à fait pertinent, mais il y a surtout l'aspect politique.
Ouais.
Parce qu'en réalité, ce qui est constaté aujourd'hui par tous, c'est l'absence de politique des transports globalement depuis des décennies. Et je dirais qu'aujourd'hui, le fait qu'on ait même une ministre des Transports, ce qui est un gain extraordinaire, c'est quelque chose qui n'existait plus depuis plus de 10 ans. Donc, on voit bien que le fait de se réapproprier le sujet des transports et des infrastructures en tant que telles, bien sûr liée à la question du développement durable. C'est, ça fait partie du jeu. Mais se poser la question, au lieu que chacun fasse sa route, son port, son nœud intermodal, là on en a absolument
son
pas
arrêt
besoin,
de gare TGV,
etc. Gare TGV, dont il a été dit à l'ouverture des Assises nationales de la mobilité que 75% sont déficitaires. Donc là-dessus, je pense qu'on a, on a beaucoup regardé le rapport de Philippe Duron. On regardera avec tout autant d'intérêt le rapport de M. Spinetta la semaine prochaine.
Sur les dessertes des gares TGV.
Voilà. Et la dette quand même de la SNCF, c'est un point très important à regarder.
Philippe Duron, c'est à l'élu local que je m'adresse, hein, l'ancien maire de Caen, l'ancien député du Calvados.
Oui, oui.
Les élus, comme ça, ils rêvent toujours d'avoir...
Alors d'abord, on les a fait rêver.
Leur gare TGV.
D'abord, Fabrice, on les a fait rêver. On les a fait rêver, notamment avec, vous vous souvenez, de la loi Pasqua-Euffel, qui disait que on allait avoir une gare TGV à moins d'une heure de tous les points du territoire et une autre, et un nœud d'autoroute, un échangeur autoroute à moins d'une demi-heure. Donc, les élus se sont dit, on va équiper le pays sans se poser la question, effectivement, ni des coûts. Voilà. Or, tous les projets que nous avons analysés, nous avons fait une analyse socio-économique. Nous les avons, confrontés au calcul de la vanne, hein, de la valeur actualisée nette, et on a retenu essentiellement des projets qui créent de la valeur, hein. Alors bien sûr, ici ou là, vous avez des problématiques d'aménagement du territoire qui nécessitent de trouver des choses, mais le grand sujet, c'est quelle est la réponse appropriée à chaque territoire. Est-ce qu'il faut mettre des TGV partout? Non. Est-ce qu'il faut mettre des TET? J'ai fait un rapport sur les TET il y a deux ans.
Pareil, ouais.
Non. Ouais. Est-ce qu'il faut maintenir des TER partout? On vient de faire avec une association, un think tank que je co-préside, une étude sur le modèle économique des TER qu'on va bientôt rendre public.
Oui, mais vous semblez avoir la réponse facilement. Mais
j'ai pas la réponse facilement.
À quoi on estime qu'un chantier, il est prioritaire? Comment on choisit ce qui est prioritaire? Comment est-ce qu'on choisit ce qui va être reporté, y compris...
Eh ben oui, mais si vous voulez, on a mis en place un bouquet de critères, hein, qu'on l'avait fait pour Mobilité 21 il y a 5 ans, on l'a enrichi, hein, de manière à pouvoir classer les projets. Et puis, chaque projet a fait l'objet d'une discussion au sein du Conseil, avec des gens qui sont des économistes, hein, avec des gens qui sont des élus, avec des gens qui sont des ingénieurs de l'environnement ou des ingénieurs.
Alors, est-ce qui justifie par exemple qu'on fasse donc le Bordeaux-Toulouse, qui justifie par exemple qu'on fasse en effet le Paris-Normandie? Bah, votre région avec des trains à 250 km/h, le doublement de la 31 peut-être, mais par contre on va reporter la LGV Bordeaux-Dax, on va reporter les deux tronçons supplémentaires de la LGV Rhin-Rhône, c'est tout ça.
La LGV Bordeaux-Dax, elle sort complètement de l'épure en termes, j'allais dire, économiques.
La nouvelle,
elle n'est absolument pas justifiable au terme du trafic qu'il y a actuellement sur Bordeaux-Hendaye. Donc ici, on verra dans 15 ans ou dans 20 ans si le trafic, qui va vers l'Espagne est capable de passer sur le ferroviaire. Actuellement, ça n'est pas le cas. Les transporteurs espagnols ne sont pas, je dirais, prêts, mûrs, peut-être, à mettre une partie de leur trafic sur le train.
Report de la 45 Saint-Étienne-Lyon, ce qui fait Brère, le maire de Saint-Étienne, hein, et puis le président de la région, il n'est pas content.
La 45, on était...
À vous non plus.
Nous, j'étais personnellement très favorable à ce qu'on fasse la 45, parce que on l'a laissé trop longtemps.
Pourquoi on annule ce projet?
On n'annule pas.
Non, il n'est pas
annulé. On souhaite un débat très vite sur ce sujet. Tout simplement parce que l'arrivée sur Lyon n'est pas optimal, parce que il y a un conflit entre le Saint-Étienne et Lyon sur le lieu d'arrimage de l'autoroute, et qu'il est bon absolument de travailler sur ce sujet pour trouver la meilleure solution. Et sur Lyon, il y a un vrai sujet. Vous avez des sujets ferroviaires. Vous avez la question du nœud ferroviaire qui est saturé et de la gare
Lyon, concrètement,
de la Part-Dieu.
C'est le cul-de-sac.
Exactement.
Ce qui fait que quand vous venez de la Méditerranée, vous êtes quand même très bloqué, comme Paris est le cul-de-sac
bien sûr
de la Normandie et du Havre.
Et il y a un problème routier, de contournement routier. Il y a un problème de contournement ferroviaire, c'est le CFL, et il y a des problèmes d'arrivée des routes. Et il faut traiter cela. Et nous, on propose de faire un grand débat multimodal, hein, associant tous les acteurs ici pour trouver des solutions qui soient
consensuelles. On voit les élus locaux qui sont pressés, qui disent voilà, l'État, eh bien, renonce à ses priorités, à ses promesses. Oui, Emmanuel.
Mais l'État, quand on parlait de la ligne rapide pour la Normandie, j'ai un peu la nostalgie du turbo-train. J'ai pas
oui, moi aussi. Moi aussi.
Ce magnifique train diesel orange très rapide.
Mais on n'est pas sur.
Il est diesel. Oui.
Bon, on va pas.
Non, c'est pas ça que je voulais souligner.
On va pas détailler tous les prochains temps.
Non, ce que je voulais souligner, c'était à quel point la compétitivité des infrastructures, elle est déterminante pour la compétitivité de nos entreprises et de notre industrie. Et notamment via un secteur qui est ce que je mettrais globalement sous le vocable de logistique. Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, dans un produit made in France, vous avez 40% de composants qui viennent de l'étranger. Donc, il n'y a pas le choix. Si vous voulez que votre produit made in France, il soit compétitif, il faut que les 40% qui viennent de l'étranger, ils soient compétitifs. Et ils seront d'autant plus compétitifs que vous les aurez amenés dans nos usines en France à un coût compétitif. Or, moi, quand on parle de compétitivité, on est obnubilé souvent par ce qui se passe dans les usines, le coût de travail dans l'industrie. Je dis attention, ce qui nous handicape aujourd'hui, c'est pas notre compétitivité dans les usines, c'est notre compétitivité dans la logistique, dans les services et le coût trop élevé de nos services, etc. Non, je veux dire qu'il faut aussi intégrer ça comme un élément déterminant de notre compétitivité priorité globale.
Un mot, Philippe Mangeur, un mot, Florence Berthelot, puis on revient, parce que la question du Il y aura des taxes. Est-ce qu'il y a le retour de l'écotaxe?
Il y a en fait deux sujets qui font un. Il y a un sujet passager, puis un sujet marchandise. Je suis content qu'Emmanuel Chypre en parle, parce que dans ces assises de la mobilité, les marchandises ne vont en pas. Elles sont pas sous la pression politique ou la pression médiatique. Madame Berthelot ici, avec ses 300 000 adhérents ou camions plutôt, elle est là en train de se dire, mais ces infrastructures, c'est mon outil de vie. Et il y a alors quelqu'un qu'on a oublié là-dedans. Si les camions circulent, c'est parce qu'il y a un donneur d'ordre qu'on appelle un chargeur. Et si un chargeur fait deux fois un camion de 5 tonnes plutôt qu'un camion de 10 tonnes, il encombre deux fois plus le territoire. Ce sont donc les chargeurs aujourd'hui qu'il faut mettre dans la boucle. Pourquoi on fait toujours payer le malheureux conducteur de sa voiture, le malheureux conducteur du camion? Pourquoi pas celui qui remplit le camion? Si aujourd'hui, les camions étaient mieux remplis, je rappelle qu'il y a 40% de vide, eh bien, globalement, il y aurait 20% de camions en moins, parce qu'on ne peut pas complètement avoir du vide rempli totalement.
Allez, un petit mot, Florence Berthelot, et puis on se retrouve dans un instant.
Oui. Moi, je reprendrai un slogan bien connu, si vous l'avez, c'est qu'un camion vous l'a apporté. Donc de fait, mais c'est vrai, c'est un transport du quotidien. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que souvent on parle transport du quotidien, on pense transport de personnes. Le transport routier de marchandises apporte 99% des besoins quotidiens. Donc effectivement, les infrastructures routières, mais pas seulement, également tout ce qui est lié aux nœuds multimodaux, parce que le camion, souvent tout commence et tout finit par un camion, mais le camion ne fait pas forcément tout de bout en bout. C'est un sujet majeur. D'où la nécessité d'avoir une approche globale et une approche économique. C'est pour ça que sur les questions du financement, jusqu'à présent, je crois qu'on était assez consensuel. On sera peut-être un tout petit peu
peut-être
moins.
Peut-être quand il va être question, donc, eh bien, des taxes qui vont être peut-être demandées aux automobilistes, aux conducteurs de poids lourds aussi. Restez avec nous. Rail-route, est-ce qu'on peut tous payer, justement? Voilà, arbitrage à faire. À tout de suite.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Bon, c'est l'heure des choix, hein, quand il s'agit de moderniser le transport, le réseau de transport en France, hein, que ça soit les voies ferrées, que ça soit les routes, aussi les voies fluviales également, hein, justement, pour désenclaver aussi certaines régions, mais seulement, il y a un problème d'argent. On peut pas tout acheter, on peut pas tout payer, justement. Rail, route, peut-on tous payer? Pour l'instant, la réponse, c'est non. Alors, le Conseil d'orientation des infrastructures, qui a rendu son rapport à Madame Borne à la mi-journée, justement, propose un certain nombre de scénarios. Il y a des chantiers qui sont jugés non prioritaires, on en a parlé, d'autres qui sont jugés prioritaires. En tout cas, quel que soit le cas, le Conseil propose d'étaler la réalisation des infrastructures envisagées. Si on parlait du Bordeaux-Toulouse tout à l'heure, Philippe Duron, les travaux de la section Agen-Toulouse pourraient être engagés à plus ou moins long terme, c'est un exemple, mais Bordeaux-Agen, lui, viendrait plus tard. Voilà, ouais. On se donne le temps, on modère. Alors, qui finance justement? Parce que vous, ce que vous proposez, Philippe Duron, il y a trois scénarios, alors plus ou moins de grande ampleur, plus ou moins ambitieux. Il y a le premier scénario, à minima, l'État met quasiment 50 milliards d'euros sur la table sur 20 ans. Alors, ça, c'est vraiment le scénario le plus bas, le plus modeste. Le deuxième.
Mais c'est en augmentation par rapport à ce qu'on a aujourd'hui.
25% par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Le deuxième, c'est 60 milliards pour l'État, toujours sur 20 ans. Et puis le troisième, on a une note de 80 milliards. Bon, très bien. Alors, lequel est le plus sérieux et comment on finance toutes ces sommes?
Je ne vous dirai pas lequel est le plus sérieux. Je dirais que plus responsable financièrement, c'est le scénario de la dépense maîtrisée.
Du milieu.
C'est-à-dire, non, le premier.
Ah, le premier.
C'est celui qui est le plus proche de la loi de finances pluriannuelle.
On peut rien faire aussi. Les grands,
on peut pas faire grand chose.
Les grands chantiers.
On peut pas faire
grand chose
et on n'arrive même pas à stabiliser complètement la qualité des infrastructures. Ouais. Le second est plus proche des deux priorités développées par le président de la République, c'est-à-dire les transports du quotidien et la régénération. On peut régénérer à peu près les réseaux en 10 ans. Hein. Celui-là, il exige un effort de 3 milliards par an pour l'agence de financement, en plus d'ailleurs du budget du ministère des Transports. Et puis enfin, vous avez un scénario que j'appellerais le scénario des territoires, celui qui ferait le plus plaisir aux élus locaux que vous stigmatisiez injustement tout à l'heure.
Ah non, je stigmatisais pas. Je constatais que certains étaient un peu dispendieux.
Mais qui répondraient un peu à toutes ces attentes qui existent dans les territoires.
On n'est pas là pour
faire 3 milliards et demi par an, bien évidemment. Alors, il faut choisir parce qu'il faut aussi financer.
Alors, financer. Alors, c'est quoi cet argent? Il vient d'où?
Nous, on a trois propositions parce qu'on a beaucoup discuté de ces questions. Et la première idée que l'on a, c'est que l'on peut redéployer des moyens existants. L'État prélève beaucoup sur la route. Vous savez bien, madame. 39
milliards
par an. Et notamment avec une taxe qu'on appelle la TICPE, qui ne coûte pas cher du tout à prélever.
La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.
Voilà, l'ancienne taxe sur les produits pétroliers. Et ici, l'année dernière, on a décidé, enfin pour la loi de finances de cette année, on a décidé d'augmenter de 12 centimes le litre d'essence, la taxe sur le litre d'essence, et la montée du prix du baril a généré des ressources de TVA très importantes, plus de 3 milliards. Donc, il ne serait pas illégitime de rendre à la route une partie de ce qu'on l'on prélève, et ici, avec 3 ou 4 centimes d'euros sur le litre de gasoil et d'essence aussi, eh bien, on arrive à financer ces infrastructures. Ça, c'est la première solution, mais il n'est pas sûr que ce soit facile à obtenir
donc,
du ministère des Finances.
Taxe par...
Alors, non, la deuxième chose, et Florence ne sera pas forcément d'accord avec moi, c'est que l'on renégocie un peu ce que j'appelle et ce qu'elle conteste la petite niche fiscale qu'il y a sur en faveur des taxis et des poids lourds qui produit aujourd'hui un peu plus de 900 millions d'euros de recettes. Ou plus exactement de non-recettes qui est instituée aux professionnels et qui va tripler dont parce que tout simplement la contribution carbone va augmenter dans les années à venir.
Vous proposez
donc,
une taxe,
Non, c'est pas une taxe. Non. On dit simplement cette aubaine fiscale qui a été consentie aux professionnels, eh bien partageons une partie de ce qui va venir en
plus. Un mot, Florence Berthelot, pour témoigner de votre mécontentement nécessairement. Alors, vous, la déléguée générale de la FNTR, les transports routiers.
C'est pas une aubaine. Et on conteste formellement ce terme de niche fiscale. C'est une directive européenne qui permet aux États membres de différencier la taxation du carburant soit à usage professionnel, soit à usage personnel. D'abord, dans un premier temps, parce qu'à cette époque, le diesel était le seul carburant utilisable dans les camions. Bon, on conteste ça, d'autant que nous, ce que l'on souhaite, c'est que, et M. Durand le sait bien, parce qu'il nous a auditionnés, il connaît par cœur notre argument, on a dit 39 milliards, tous usagers confondus, rapportés à l'État. Et on nous dit toujours, il n'y a pas assez d'argent. Mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent?
Et qu'est-ce qu'on en fait? Alors, répondez à la question.
On vous soigne, on vous éduque, vous savez, on assure la défense nationale, on assure la sécurité des Français.
Et ça, c'est un dévoiement de la TICPE, parce que la TICPE, à l'origine qu'on appelait la TIPP, avait été créée pour financer les infrastructures. Et au fur et à mesure, l'État, qui manque toujours d'argent,
l'a pris pour le budget général.
Lourdement endetté, vous dit, mais il n'y a jamais assez d'argent, donc on va piécher.
Emmanuel Le Chip, c'est bien les taxes, on connaît, c'est facile. Il n'y a pas mieux à inventer, justement, pour financer ces infrastructures?
Alors, d'abord, moi, je voudrais quand même souligner qu'on parle de sommes dérisoires. On part de 0,1 point de PIB. Je n'oserais pas dire par provocation qu'on est presque sur des budgets particuliers, mais enfin 0,1 point de PIB. Quand on s'étripe pour des enjeux aussi importants sur 0,1 point de PIB, regardez les Allemands à qui on reproche de ne pas faire d'efforts et d'avoir des infrastructures de mauvaise qualité. Regardez ce qu'ils mettent sur la table maintenant chaque année pour moderniser les infrastructures, on est dans l'ordre de 15 à 20 milliards d'euros. Donc moi, je pense qu'il faut faire beaucoup plus que ça. C'est des sommes dérisoires dont on parle. Là, on se bat pour des, on se bat pour des miettes entre ces trois grands projets.
Il faut quoi, Emmanuel?
Donc moi, je pense qu'il faut d'abord beaucoup. D'abord, il faut raisonner sur des sommes beaucoup plus importantes pour l'ensemble des projets qu'on a déjà évoqués. Ça veut dire que quand on raisonne, il faut moi, Dieu sait si je peux pas être accusé d'être anti rigueur budgétaire, etc. Mais il y a un moment où faut arrêter les bêtises. C'est-à-dire que concrètement, quand vous voyez que tout ça c'est à cause des contraintes européennes, moi je pense qu'il y a un moment où quand vous avez des taux d'intérêt à 1%. Et que là, on parle de projets qui sont des purs investissements.
Oui,
donc
sûr.
Des projets qui vont avoir une rentabilité
bien
très nettement supérieure à ce pourcent. Donc, en raisonnement financier, mais il n'y a pas une seconde la question à se poser. On emprunte à 1%, ça rapporte 4-5%. Donc ça,
avec,
il faut y aller.
Avec un effet vertueux, parce que
après, moi, je pense qu'il y a une opportunité européenne absolument historique. On a le plan Juncker aujourd'hui, qui est un plan d'infrastructure, qui doit s'accompagner d'une révision philosophique de la manière dont on dépense l'argent public en Europe. Je pense qu'il y a une partie des sommes destinées à l'investissement qui doivent être sorties des critères de Maastricht, qui sont aujourd'hui devenus totalement obsolètes. C'est-à-dire qu'il faut trouver le moyen de ces investissements, de ne pas les intégrer dans le critère de 3%, qu'il faut revoir ce critère sur des nouvelles bases. Et je pense qu'une grande partie de l'Europe serait d'accord, puisque là, puisque c'est aujourd'hui... Parce que c'est intéressant, parce que on est aussi, il n'y a pas que le problème français, c'est que à l'échelle européenne, alors excepté des pays qui ont été modernisés par l'Europe très tard comme Portugal, Grèce, Espagne, etc. Mais aux États-Unis, c'est pareil. Vous êtes à la fin d'un cycle d'utilisation, d'investissements massifs qui ont été faits après la Deuxième Guerre mondiale et dans les années 60.
Et qui sont devenus.
Et qui sont aujourd'hui tous au bout du rouleau.
Obsolète.
Et ça, c'est pas que français.
Vous avez cité
regardez
les États-Unis.
Regardez l'Allemagne. Regardez l'Angleterre.
Les routes, les ponts aux États-Unis, ils sont pourris.
Mais bien sûr.
Alors, l'exemple de Trump, par exemple, qui veut engager 1500 milliards de dollars.
Eh ben oui.
Bon exemple.
Bah oui, c'est honnêtement pour le coup, c'est une bonne idée. Et moi, je pense qu'au niveau européen, il y a une opportunité incroyable là de sortir. Parce que
faut trouver l'efficacité.
Je comprends bien votre contrainte, votre rapport.
Aussi,
vous l'avez fait dans un cadre qui est le cadre aujourd'hui de la boîte dans laquelle vous avez été contraint de réfléchir. Mais je pense qu'il faut aller au-delà et c'est à l'État de porter ces solutions plus innovantes que le simple cadre dans lequel on est aujourd'hui.
Philippe Mangeard, ce rapport là, il va en sortir quoi? Parce qu'au final, c'est Elisabeth Borne qui va rédiger un projet de loi qui va être soumis au Parlement au printemps. Elle va suivre ce type de recommandations?
Moi, je voudrais qu'elle tape.
Vous la connaissez?
Moi, je voudrais qu'elle tape au ministère d'à côté, chez Monsieur Hulot, qui dit que la transition écologique doit participer à la politique, aux politiques publiques. Et on la voit pas là. On parle du carbone à l'intérieur de la TCIPE. On parle de l'effet d'aubaine.
Ah si, il parle du vélo.
Je parle du carbone.
Consacré 300 millions d'euros pour le vélo.
Le carbone, qui est aujourd'hui codifié par des prix de 30 euros, bientôt 50 euros, etc.
Oui, pour les infrastructures.
On en faisait une monnaie de financement des infrastructures qui font économiser du carbone. Vous n'avez plus aucun souci. J'ai déposé avec un comité d'experts un projet qui rapporte entre 2 et 4 milliards d'euros sur la fiscalité carbone. Il faut l'étudier.
Philippe Duron, juste pour répondre très rapidement, parce qu'on va se quitter dans un instant, la question de l'étalement des travaux dont on a parlé justement pour essayer de pondérer la charge quelque part, est-ce qu'elle va se poser aussi pour d'autres gros dossiers? Alors, vous ne vous êtes pas penché sur le Grand Paris, le Grand Paris Express, c'est hors rapport. Mais quand même, est-ce qu'elle peut se poser aussi pour le Grand Paris? Est-ce que le Grand Paris Express, est-ce qu'il se fera à temps justement quand on voit la Cour des comptes qui a dénoncé le dérapage du Grand Paris Express? Est-ce que la ligne 18 qui dessert sa se fera en temps et en heure. Alors, c'est une priorité pour l'attractivité de la France.
Alors, je n'en sais rien et je n'ai pas qualité pour vous le dire, mais ce que j'ai compris, des déclarations, vous savez, le Grand Paris, c'est énorme comme projet et c'est un peu...
Rien que la 18,
c'est un projet qui a été lancé un peu comme on a lancé les 4 LGV, vous savez, après le Grenelle. C'est-à-dire qu'on a pensé qu'on allait pouvoir, j'allais dire, étaler dans la durée les financements grâce à des financements innovants. Et puis, on s'aperçoit que, in fine, il faut les payer, les financement innovant, et qu'ils ont un coût. C'est assez difficile. Et pour le Grand Paris, il y a des lignes qu'il faut allez, qu'il faut achever assez rapidement pour être prêt pour les échéances des Jeux Olympiques, et peut-être mais d'autres sur lesquels on peut gagner un peu de temps et attirer. Parce qu'en plus, il y a un autre sujet, c'est que ces travaux considérables qu'on fait dans Paris, eh bien, mobilisent énormément d'entreprises, font en sorte que on risque d'avoir des problèmes également de tunneliers, des problèmes techniques de tous les gens. On a vu qu'il y avait eu un incident ou un accident sur la porte Maillot, voilà. Hein, donc, il faut faire attention.
Qui a paralysé la ligne 1. Ouais, qu'est-ce qu'on fait sur le Grand Paris? Il faut l'accélérer. Florence Berthelot.
Ce qui est intéressant à travers le rapport de la Cour des comptes, et je pense que là, on peut aller plus loin encore, parce que je pense que sur la priorité des investissements, on voit bien que Philippe Duron fait des propositions. En revanche, sur le meilleur contrôle des dépenses qui étaient censées être engagées, là, il y a un vrai travail.
C'est
à
la gouvernance. Bon, on ne peut pas tous payer, hein, c'est
ça. Il faut réinventer les schémas de gouvernance de ces grands projets.
Et nous, on fait une proposition.
Philippe Duron,
c'est d'avoir des audits contradictoires et des expertises internationales avant ou tout au long des projets. Parce que on a aujourd'hui le commissariat aux grands investissements. Très bien. Mais ils arrivent en fin de conception du projet. Et il est déjà trop tard pour pouvoir modifier, infléchir.
Emmanuel Lechypre.
Non, dire qu'il faut remettre de la rationalité économique et financière dans tout ça et un peu moins de politique.
Merci à tous. Merci Philippe Duron, donc président de l'Agence de financement
de
des infrastructures de transport de France, à hauteur de ce rapport qui a été remis à la ministre et ancien député du Calvados. Florence Berthelot, la déléguée générale de la Fédération nationale du transport routier, qui représente donc presque 40 000 entreprises. Philippe Mangeard à la tête de son agence de notation spécialisée dans les mobilités, TK Blue. Emmanuel Lechypre, éditorialiste économique à BFM Business. C'est fini pour les décodeurs de l'écho. On revient évidemment très très vite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.